Bonjour, bienvenue à Culture et Politique sur Radio Courtoisie. Richard Haddad au micro, avec Pierre Henry, comme tous les lundis à 17h.
Et bonjour Richard, bonjour à tous les auditeurs, ravi de vous retrouver.
Aujourd'hui, au programme, la justice française à deux vitesses. Et puis nous parlerons à la fin de l'émission des accords américano-iraniens dont on connaît pas, qui se profilent, dont on ne connaît pas beaucoup de choses. Mais
non,
on va parler de ce sujet.
Tout à fait.
Mais commençons par cette justice à deux vitesses. Alors de quoi s'agit-il ? Évidemment, vous l'aurez deviné, il s'agit d'une justice qui laisse des criminels, des violeurs, des émeutiers libres, mais qui est assez sévère, qui arrête facilement et met en garde à vue. Vraiment, il n'en faut pas beaucoup pour être mis en garde à vue en France. Hein. Je pense qu'on est les champions d'Europe de la détention provisoire et de la garde à vue. Et je ne sais pas, j'espère que les auditeurs de Radio Courtoisie n'ont pas goûté à la garde à vue, mais moi j'ai goûté à la garde à vue.
Ça a été le cas de beaucoup quand même, parce qu'on a beaucoup de militants parmi nos auditeurs.
Absolument, c'est vrai. Mais je ne souhaite à personne, parce que je peux vous assurer que ce n'est pas drôle du tout une garde à vue. Et donc c'est beaucoup plus dur que la vraie prison en fait. Hein. C'est fait pour d'ailleurs. Et donc vous vous retrouvez en garde à vue en France, pour pas grand chose. Hein. Vous manifestez avec une banderole, avec des idées politiques pas très correctes, entre guillemets, vous retrouvez en garde à vue. Pour pas grand-chose, hein, pour une banderole. Vous êtes accusé d'abus de biens sociaux dans votre société, à tort ou à raison, vous finissez en garde à vue. Vous êtes un homme d'affaires accusé de quelque chose, là, pas de problème.
La délinquance financière, la justice française est intraitable.
Intraitable. Et souvent pour rien, parce que vous sortez, il n'y a rien après. Hein. Enfin, je veux dire, ça aboutit souvent à des non-lieux. Mais vous allez en garde à vue très vite. Vous avez fréquenté une femme il y a 30 ans, vous êtes un peu connu aujourd'hui, elle vous accuse de viol d'une histoire d'il y a 30 ans, vous êtes en garde à vue très vite. Hein. Et donc, en revanche, vous êtes un violeur patenté, quelqu'un qui touche des gamines de 5 ans, on porte plainte contre vous, alors là... C'est pas urgent.
C'est tout l'enjeu donc de l'affaire du meurtre de la pauvre petite Liana, 11 ans, par un type là qui est heureusement... Ce n'est pas la première fois, qui a été plus que signalé, puisqu'il y a déjà eu des plaintes, dont une pour viol, à son encontre, et que tout l'enjeu, en fait, dit-on, de la défaillance des dysfonctionnements de la justice qui ont conduit à... la mort de la pauvre Liana, ça a été justement que ces plaintes n'ont pas été traitées comme il le fallait. D'une part, les plaintes, et d'autre part, on a appris que donc, la plainte date, de septembre de l'année dernière, 2025, avec des expertises médicales à l'appui quand même, qui révélaient des lésions...
Oui, c'était pas une accusation comme ça...
À l'emporte-pièce. Non, là, il y avait un examen médical qui avait été fait, qui révélait des lésions dans les zones génitales. On ne se fait pas ça tout seul quand on est un petit garçon, une petite fille.
Pardon de vous couper, mais justement, les accusations à l'emporte-pièce de quelques femmes qui prétendent avoir été violées il y a 30 ans, alors peut-être que c'est vrai, mais enfin, c'est à l'emporte-pièce parce qu'il n'y a pas le début du commencement d'une preuve. On vous met en garde à vue. Hein.
Et tout le problème, c'est que ces affaires-là, et plus elles sont anciennes, plus c'est systématique, s'achève dans du parole contre parole.
Et c'est comme par hasard souvent des gens connus et qui ont de l'argent. Et personne ne se demande que si c'est pas pour de l'argent qu'on fait ça. Parce que quand vous êtes inconnu et vous avez eu une relation avec une femme il y a 30 ans, elle vient pas vous accuser de viol 30 ans plus tard. Hein. Mais si vous êtes connu, vous avez de l'argent. Bon, on va revenir sur ce sujet,
on va revenir parce que c'est l'affaire Boël, bien évidemment.
Que vous disiez sur Liana.
Et donc, on apprend donc que ce dénommé Barella, donc qui est le vraisemblable violeur et assassin de la petite Liana, aurait dû être arrêté par la gendarmerie au mois de février, parce que le juge d'instruction d'Auch aurait lancé cette requête à la gendarmerie, requête non exécutée. Et il se trouve que ce qui a très légitimement déclenché la l'indignation collective et populaire, c'est qu'on apprenait que sur ces 9 derniers mois, dans la région autour d'Auch, il y avait eu des manifestations d'agriculteurs. Il y a eu 40 agriculteurs ont été mis en garde à vue, si je ne m'abuse, pour des banderoles, des tweets, et on avait le temps de s'occuper, en fait, de délits supposés politiques, ou syndicaux, mais dans le monde du politique, du syndical.
Qui n'étaient pas en danger, ni des enfants, ni des femmes, ni personne.
Qui mettaient en danger la vie de personne, en fait. Mais en revanche, Barrella avec des plaintes pour agression sexuelle et pour viol, parce qu'il n'y a pas eu que la plainte pour viol de l'année dernière, et avec une demande d'arrestation, d'interpellation, eh ben non, il a quand même pu rester dehors suffisamment longtemps pour passer à l'acte, et de manière définitive, parce que la petite Liana, malheureusement, rien ne la ramènera à la vie. Et ça, eh ben pour une, entre guillemets, pour une fois, ça va enfin mettre en lumière ce que vous appeliez la justice à deux vitesses, c'est-à-dire cette justice qui choisit en France ses priorités. Et quand je dis cette justice, c'est parce que ce n'est pas une minorité de juges.
Non, non.
Malheureusement, c'est une majorité, oui. Et c'est un système. Et je veux dire, il suffit d'ouvrir les faits divers qui sont compilés jour après jour dans la presse ou sur le site F de Souche pour bien comprendre que quand vous cassez, vous brûlez, on ne vous place même pas en détention. Vous n'êtes de toute façon pas solvable, donc vous n'avez même
absolument,
pas d'amende.
Vous ne payez jamais ce dont vous...
On a
vous
des exemples toutes les semaines de gens qui passent devant le tribunal pour la 30e, 40e, 50e oui. fois.
Mais combien de fois on a arrêté des gens qui sont arrivés au meurtre ou à des choses très graves, et on s'est rendu compte qu'avant d'arriver à commettre un délit extrêmement grave...
Des dizaines de condamnations.
Le type, il a 21 ans, il a déjà été condamné 40 fois, arrêté 70 fois, et libéré. Et après, on dit « Ah zut, il a tué quelqu'un !» Ah bah oui, mais enfin... Et en fait, je voudrais casser un mythe. Parce qu'à chaque fois, on vous dit « Ah, mais c'est un problème de moyens. » Alors certes, je ne vais pas nier que la justice française est pauvre.
C'est vrai.
Il manque de procureurs, il manque de moyens aussi. Hein. C'est
vrai.
Complètement
sur
archaïque.
Sur les locaux, nous sommes d'accord.
Ils ne sont pas informatisés correctement. Ils sont...
Mais comme,
tout ça,
comme
d'accord.
la fonction publique en général, comme la gendarmerie, comme la police,
certes,
comme l'armée,
voilà.
Exactement. Comme les hôpitaux.
Il manque de moyens, mais ce n'est pas la cause principale.
Et non.
Vous venez de le dire, et puis je l'ai dit au début de l'émission,
elle
lorsqu'il s'agit d'arrêter un militant identitaire avec moyens,
oui.
Lorsqu'il s'agit d'arrêter des agriculteurs, les moyens ne manquent pas, ni à la gendarmerie, ni au niveau de la justice. Donc certes, il manque de moyens de manière générale, mais ce n'est pas ça en particulier qui les a empêchés de mettre ce criminel en garde à vue. Donc, comme vous dites, il y a des priorités, donc c'est idéologique.
C'est
en réalité, c'est idéologique. La justice est idéologisée en France, pardon, et elle applique ses priorités. Et donc, et puis depuis la loi Taubira, le ministre de la Justice n'a plus le droit de donner des consignes particulières. Il peut donner des politiques générales, mais je vais vous dire que qu'elles soient générales ou particulières, elles ne sont pas. Le problème, c'est que il n'y a aucune sanction. Ça veut dire que si le ministre de la Justice donne des consignes, les magistrats ne les suivent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec lui politiquement. En fait, ils se sont autoproclamés. Ils se sont créés une légitimité qui n'existe
supérieure,
pas.
Et ça, supérieure, on l'a dit
souvent, ils se sont,
au pouvoir
ils sont
exécutif
supérieurs,
et législatif.
Exactement. Ils sont supérieurs surtout au pouvoir législatif. Ils veulent créer la loi. Alors, ils profitent des jurisprudences pour inventer des lois. En fait, les lois, vous votez mal, Pierre-Henri. Eh bien, qu'à cela tienne. Eh bien, les juges, si les lois faites par le législatif donc, indirectement par le peuple français ne leur conviennent pas,
peuple, voilà.
ils veulent éduquer le peuple, ils vont refaire les lois eux-mêmes. Et donc, le ministre de la Justice peut sortir toutes les directives qu'il veut, ils ne les suivront pas. Le seul problème, c'est qu'ils ne sont pas... Oui, bien sûr.
Vous allez voir.
Bien sûr. Mais, quel est le problème ? C'est qu'ils ne sont pas sanctionnés. Normalement, il y a une directive, il y a une loi. Vous ne faites pas appliquer la loi, vous n'appliquez pas la directive quand vous êtes procureur. Tout dépend si vous êtes un juge du siège ou si vous êtes un...
Du parquet. Oui.
Du parquet. Et... Vous êtes dans... L'un doit appliquer la loi pour condamner, l'autre doit suivre les directives du ministre parce qu'il est le procureur de la République, donc il est l'avocat de l'État. Eh bien, l'un et l'autre devraient être sanctionnés. Il n'y a aucune sanction. Ces gens, on vous dit, ah oui, il y a le syndicat, pardon, il y a
le Conseil supérieur
conseil
de la magistrature.
Mais c'est une blague.
C'est
une blague. Le Conseil supérieur de la magistrature ne. Vous savez, si, on nous a sorti il n'y a pas très longtemps le nombre des sanctions.
Oui,
mais vous savez pourquoi ils sont sanctionnés ? Pour des choses qui n'ont rien à voir avec ça.
Pour de l'absentéisme.
Ouais, pour des
et
choses...
si, il y a un cas, deux remarques que je voulais faire par rapport à ce que vous avez dit. Il y a un cas de juge sanctionné dont on a parlé, c'était il y a 2 ans. Le juge s'appelle Tony Skurtis, avec un S, pas comme l'acteur. Il a été sanctionné parce qu'il a été victime d'une cabale, surtout d'avocats, de délinquants et de criminels. Et il a été sanctionné parce qu'il appliquait la loi trop sévèrement.
Voilà. Moi, j'en connais un autre que je ne voudrais pas citer. Qui a
Mais
été
qu'on a reçu à ce micro, je crois.
Absolument. Voilà. Qui a été plus ou moins sanctionné. Enfin, en tout cas, on l'a beaucoup embêté.
Ouais.
On a tenté de le sanctionner.
Parce qu'il parlait d'un sujet délicat.
Voilà, parce qu'il a fait un livre sur un sujet délicat. Et parce qu'il avait appartenu à un parti politique. Alors, ouais. De droite, évidemment. Alors, ça,
évidemment,
c'est
parce que
crime
si c'est
de lèse-majesté. Ça,
gauche.
Ils sont sanctionnés, il n'y a pas de problème.
Et alors, autre remarque, la justice et les juges n'appliquent pas, en effet, les directives du ministre de la Justice, sauf quand celui-ci demande de raccourcir les peines pour vider les prisons.
Mais oui, mais
ce qu'a fait
gauche,
Darmanin il y a un mois.
Oui, absolument. Alors, on va revenir sur Darmanin.
Avant mais de
effectivement,
jouer
quand les directives du ministre de la Justice sont plutôt de gauche, elles sont appliquées, bien évidemment. Alors, monsieur Darmanin, alors, il dit que c'est pas de sa faute, etc. Bon.
C'est jamais de sa faute.
Non, bien sûr. Mais, enfin,
mais
bon, okay.
Rien, il a eu un milliard d'occasions de démissionner pour assumer en fait la gabegie et l'impéritie de ses deux ministères, c'est-à-dire l'intérieur puis la justice maintenant. Il n'a jamais démissionné.
Oui. Alors,
il est responsable de rien en tant que ministre. C'est fabuleux.
Bien sûr. Alors il dit que depuis la loi Taubira, qui interdit au ministre de la Justice de donner des directives sur un dossier en particulier, fait que il ne peut rien faire, il n'a pas le droit, et donc c'est pas de sa faute.
Magnifique.
Sur ce plan-là, oui, ok, mais en fait c'est quand même de sa faute, parce que lorsqu'on est nommé ministre et on ne peut rien faire, d'abord on démissionne, pour protester contre le fait qu'on ne peut rien faire. Et il dit, la loi Taubira, ça se sent, change les lois.
Ouais.
Donc il dit, son excuse, c'est de dire, lui il est contre cette loi, et il dit, je ne peux pas la changer, c'est ça la plaisanterie, je ne peux pas la changer parce que nous n'avons pas de majorité. Mais d'abord... Quand on n'a pas de certes, ils n'ont pas de majorité, mais a-t-il essayé? Parce que, vous savez, si vous proposez la modification de la loi Taubira, qui interdit au ministre de la Justice, je le rappelle, d'intervenir auprès d'un procureur, vous n'avez pas de majorité, mais il y a des députés d'opposition qui seraient d'accord avec vous. Parce que si vous additionnez, c'est arithmétique, parce que le RN serait d'accord, l'UDI serait d'accord, les LR seront d'accord, et si vous... Monsieur Darmanin, macronien, si votre groupe macroniste est d'accord, ça fait une majorité. Donc la plaisanterie de dire « je n'ai pas de majorité pour changer ça », c'est faux. Il n'a pas, son parti n'a pas de majorité, mais cette idée...
Il n'y a aucune volonté
de
changer la loi.
S'il y a un projet de loi pour changer cette loi, il y aurait une majorité. Il ne l'a pas fait. Donc ça, c'est de sa responsabilité à lui. Deuxièmement, je veux dire, ce ministre de l'Intérieur qui, en fait, qui gère sa carrière, qui adapte son discours selon les événements, parce que ça fonctionne avec les communicants, c'est insupportable. Nous avons quand même, on est dans un pays, la France, qui est une puissance extraordinaire, qui a l'arme nucléaire, qui siège au Conseil de sécurité.
Ouais.
Nous avons un ministre de la Justice qui avait été accusé dans des affaires de harcèlement et de viol. Il en a été, bien
blanchi,
sûr, il a été blanchi,
évidemment,
acquitté,
évidemment.
Mais il a reconnu lui-même dans cette affaire, et effectivement, là, on revient à notre sujet du départ, c'est-à-dire il avait été accusé de viol, certainement à tort. Bon, il a été d'abord blanchi, et très probablement,
il n'y avait rien derrière.
Il n'y avait rien derrière, bien évidemment.
Mais il reconnaissait un échange de bons procédés, on peut dire.
Absolument. Il a reconnu qu'il a promis un HLM, enfin, un logement social, plutôt, à une femme...
Contre une nuit.
Contre une nuit. Et ce type-là est ministre de la Justice. Bon, ça dit tout de notre pays, mais
on fait une pause
pour le Bobino.
Radio Courtoisie, libre, sans publicité, sans subvention. 1,5 million d'auditeurs par semaine, des milliers d'écoutes en ligne. De 13 ans à 99 ans, vous nous écoutez. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter en ligne. Désormais, les podcasts de Radio Courtoisie, les émissions de Radio Courtoisie viennent à vous gratuitement. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
Alors, nous reprenons cette émission, Pierre-Henri. On parlait de la justice à deux vitesses. Alors, peut-être quand même, on peut évoquer... On vient de parler des accusations de viol à tort et à travers.
Oui.
Alors, je tiens tout d'abord à faire une remarque, une précision plutôt. Évidemment qu'il peut y avoir des femmes qui ont été violées il y a 30 ans et qui n'ont pas porté plainte pour X raisons.
Évidemment.
Évidemment que ça existe, on ne met pas ça en cause. Mais comme tout crime, la prescription n'a pas été inventée par hasard. La prescription a été inventée parce qu'au bout d'un certain temps, on ne peut pas juger une affaire. Parce qu'il manque de voilà, donc il y a la prescription. Et donc, le viol n'est pas supérieur aux autres crimes. Hein. Même si vous tuez quelqu'un, au bout d'un moment, c'est prescrit. Donc, le viol n'est pas supérieur au meurtre. Et donc, alors évidemment, ça existe. Mais enfin, cela dit, la multiplication des plaintes, je veux dire, ça existe, mais tout le monde n'a pas été violé sans porter plainte pendant 30 ans. On a l'impression que c'est quelque chose de courant, que tous les jours, il y a des gens violés. Et comme par hasard, encore une fois, ça ne concerne que des gens qui sont devenus célèbres et riches. Et on oublie l'argent derrière ça. C'est-à-dire que voilà, la vengeance, l'argent, etc., l'aigreur, enfin bon. Et donc, encore une fois, ça peut être vrai. Mais admettons aussi que ça ne peut ne pas l'être. C'est ça le problème, c'est qu'automatiquement, ça doit être vrai.
C'est, tout ceci arrive dans un contexte social où il y a, mais ça, ça fait des années, bien évidemment, que le diagnostic est fait, il y a une criminalisation, en fait, de la masculinité en général. Ouais. Alors, bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de violeurs, il y en a toujours eu, et il y en a malheureusement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des dragueurs lourds, mais ce n'est pas la même chose que bien des sûr. Violeurs. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu, en effet, des vedettes qui étaient...
qui ont abusé
traqués. De leur... Alors, il y en a eu qui ont abusé, bien évidemment, de leur statut de vedette, mais qui étaient aussi traqués par des milliers de bien groupies. Sûr. Et ça a été le cas de Patrick Bruel. C'était une blague dans les années 90 et 2000 d'imiter des jeunes filles avec des voix suraiguës qui criaient Patrick. Oui. Parce que c'était le cas. Ça a été le cas pour Elvis Presley. Ça a
pour
été
Claude
le cas
François.
Pour des, en fait, des grandes vedettes comme ça ont l'embarras du choix. Et vous avez des femmes, et parfois même de grandes adolescentes, qui se battraient pour avoir une place dans la chambre de leur vedette. Ça a été le cas de David Bowie. Ça a été... Voilà. Tout ceci existe. On est en train, en fait, de présenter ce genre d'affaires sans aucune nuance et sans aucun, sans aucune retenue. Qu'est-ce que c'est que la retenue en l'espèce ? C'est le temps qu'il faut pour éviter, en fait, les propos qui sont des amalgames, qui sont des exagérations, qui desservent d'ailleurs le fait de vouloir rendre justice pour de véritables viols qui ont eu lieu.
Mmh,
là, vous parliez de la prescription. Il y a des demandes, dont certaines portées par des hommes politiques, pour rendre les viols sur mineurs imprescriptibles. Oui. Donc, ok, mais qu'est-ce qu'on va faire des meurtres ?
Non, parce mais surtout, que... mais vous rendez compte de la gravité de la chose, parce que voilà. Si vous rendez ça imprescriptible, si vous jugez une affaire de viol qui date d'il y a 40 ans, par exemple, mais ça veut dire que c'est parole contre parole et vous condamnez quelqu'un sans preuve. En fait, ils sont en train de transformer la justice en une justice qui condamne sans preuve. Et ça, c'est extrêmement grave.
Et c'est extrêmement dangereux grave. Pour le reste aussi.
Mais bien sûr, c'est dangereux, ouais. Parce que n'importe qui peut accuser n'importe quoi. Et comme on a établi que l'homme est un salaud et la femme ne ment jamais... Autrement dit, on va vivre dans une société où n'importe quelle femme dit n'importe quoi et elle est automatiquement crue et l'homme condamné. Et ça, on n'a pas envie de vivre dans une société pareille.
On va droit à la catastrophe et au retour de bâton. C'est un peu étonnant ce que vous dites parce que ça rejoint notre deuxième sujet qui est géopolitique. Oui. Mais oui, en fait, on a dégradé en fait ontologiquement l'homme qui est un violeur, un assassin. Un mari maltraitant, un menteur, un vaniteux, etc. Et qui est toujours responsable de tout ce qu'il fait. Mais c'est pas le cas de la femme. La femme non seulement ne ment jamais, n'est jamais responsable de ce qu'elle fait, et donc a toujours des excuses à trouver ou des coupables à trouver pour se rendre elle-même victime.
En fait, on a décidé...
Cette présentation-là, elle dessert tout le monde. Elle dessert les hommes.
Elle dessert les femmes aussi.
Et elle dessert
les femmes.
Il y a
beaucoup de femmes qui sont contre cette affaire. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. En fait, c'est une minorité, comme toujours. C'est une minorité d'activistes agissantes, de gauche ou d'extrême-gauche, entre guillemets féministes, entre guillemets.
Ouais, qui impose son agenda,
qui impose son agenda, qui impose son vocabulaire pour conclure, parce qu'il nous reste 7 minutes et on va passer à la guerre. Moi, j'ai vu ces militantes sur les plateaux se répandre sur les plateaux télé pour critiquer les avocats, se moquer d'eux, parce que les avocats parlent de droit, et elles, le droit pour elles consiste à dire « Moi, je crois, je suis féministe, donc je crois les femmes, donc elles qui sont victimes avant même qu'il y ait procès. »
C'est un slogan sur Internet, « On vous croit. »
On vous croit, oui, très bien. Et elle dit à chaque fois pour soutenir son argument, comme elle n'a pas d'argument juridique, pour soutenir son argument, elle vous dit « Ah oui, mais les femmes... » Parce que vous savez que les accusés sortent des preuves parfois pour dire mais la femme qui m'accuse de viol, moi j'ai un message d'elle qui dit
elle a passé une très belle soirée,
je suis bien rentré, la soirée était très sympa, merci. Et on vous répond « Ah, mais ça c'est normal, c'est parce que la femme veut banaliser l'affaire, normaliser le viol. » Et c'est, on utilise un terme que j'aimerais répéter à ce micro que je trouve hallucinant, c'est documenté.
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire documenté ?
Ça a été prouvé en laboratoire.
Oui, voilà. En fait, elle ne peut pas dire que c'est prouvé parce que ce n'est pas prouvé du tout. Elle vous dit, c'est documenté, elle balaye l'affaire.
Voilà.
Donc à chaque fois, elle répète, c'est documenté.
C'est l'argument d'autorité.
J'aimerais savoir par qui c'est documenté
qui c'est
et qu'est-ce que ça veut dire d'abord documenté, parce que ça ne veut rien dire
ça
du tout.
Ça ne veut rien dire.
Ouais. Alors elle vous dit documenté, donc circuler, il n'y a rien à voir. J'ai la preuve de. Bon, très bien.
Juste
en fait, c'est juste du.
Juste pour conclure et pour laisser. un élément à la sagacité des auditeurs, 60% des avocats sont des femmes et quasiment 80% des juges, des magistrats sont des femmes aussi. Voilà, donc
oui, et l'avocat, souvent les avocates des hommes accusés de ce genre de choses sont des femmes.
Tout à fait. Donc, on passe au deuxième sujet. Oui. Évidemment, le sujet brûlant du jour, c'est le... Attention, c'est pas un accord, c'est un protocole d'accord.
Oui.
Donc, affaire,
en l'homme,
d'être signé.
Voilà. L'homme, c'est les Américains et la femme, c'est l'Iran.
Voilà.
La femme ne ment jamais.
Elle n'est jamais responsable de rien.
L'Iran
ne ment jamais.
Voilà. Elle est c'est la victime.
Et aujourd'hui,
l'Iran est la victime.
L'Iran est la victime, mais en même temps, le grand vainqueur. Parce qu'aujourd'hui, on a eu, bien évidemment, l'organe officiel, l'organe de médias officiel du régime iranien, qui s'appelle l'agence MER,
qui ne ment jamais, comme tout le monde le sait.
A soi-disant annoncé le contenu de l'accord. Donc, dans ce contenu, c'est vraiment, c'est la foire à l'emporte-pièce. C'est-à-dire qu'il y a 300 milliards de dollars par-ci, la souveraineté absolue et éternelle sur le détroit d'Ormuz, les réparations...
Ça s'appelle de la poésie orientale.
C'est de la poésie orientale.
Voilà, la poésie orientale, c'est toujours maquiller son discours avec des poèmes, vous savez, éternel, toujours le mot éternel.
C'est éternel. C'est souveraineté éternelle sur Ormuz, départ définitif de toutes les troupes américaines de la région, etc., etc. Et donc... Là, vous avez tout un tas de commentateurs, quels qu'ils soient, qui disent « Ah, voyez bien que c'est une... » Alors, c'est le deuxième point sur lequel je vais revenir, c'est une capitulation de Trump. Bon, alors ça, c'est le deuxième point. Mais le premier point, c'est que quand Kim Jong-un ou, à l'époque, Staline, via leur Pravda respective, font un communiqué, une déclaration officielle, est-ce qu'il y a pas quand même un peu des pincettes à prendre avant de les reprendre pour argent comptant et dire « Ah, on a le contenu de l'accord, c'est Mojtaba Khamenei qui nous l'a annoncé, 300 milliards de dollars, et puis comme dit l'expression, 100 balles et un mars aussi pendant qu'on y est ». Donc vous avez plein de commentateurs en France et à l'étranger, des columnistes comme on dit aux États-Unis et en Angleterre, qui nous disent « Ah, vous voyez, 300 milliards de dollars ». Mais c'est ridicule.
Oui, parce que c'est d'abord pas plausible.
C'est bien évidemment pas plausible.
Et puis la parole de ces gens-là, vous savez bien, on a eu la même chose avec le Hamas. Hein. Tous les jours, on nous disait le nombre de morts à Gaza, en vous disant, évidemment, ils disent pas
source
le Hamas. Non, ils disaient, selon le ministère de la Santé de Gaza. Sans préciser que le ministère de la Santé de Gaza, c'est le Hamas.
C'est même pas l'autorité palestinienne.
D'ailleurs, c'est de bonne guerre. Je veux dire, il n'y a pas que l'Iran et le Hamas qui ment. Les Américains mentent, nous mentions lorsque nous faisons... Quand on fait la guerre, ça s'appelle... Ben évidemment, ça s'appelle la propagande de guerre.
C'est une guerre d'information, c'est une des parties de la guerre classique,
voilà. On fait pas de guerre, il faut déstabiliser l'ennemi, il faut lui envoyer des leurres. Donc c'est normal de mentir pendant les guerres.
C'est pareil, c'est-à-dire que l'agence mère, elle s'adresse d'abord au peuple iranien, sous le joug du régime
des Mollahs. Que voulez-vous qu'ils disent à leur peuple?
On s'est fait humilier.
On s'est fait raser notre pays, voilà. On a perdu des milliards.
Khamenei s'est fait shooter au missile.
Le 80% de notre classe politique est éliminée.
Et notre économie est asphyxiée.
Qu'est-ce qu'ils voulaient qu'ils vous disent? Déjà, la population ne les supporte pas. Ils vont venir leur dire on va signer un accord après avoir perdu le trois quarts de nos infrastructures.
Donc, l'agence d'État iranienne ment et beaucoup de gens font comme si elle disait la vérité. Première chose. Après, vous avez. Alors, ça, si dans votre entourage ou si dans les médias, vous entendez quelqu'un dire que Trump a capitulé, vous pourrez être sûr que c'est un débile mental, parce qu'il ne sait pas, il ne connaît pas le sens des mots. Parce
que c'est ce que j'allais vous dire, c'est ça le problème, c'est le sens des mots.
Parce qu'on n'arrête pas d'entendre en anglais dans le texte ou en français les mots de capitulation et reddition, je ne sache pas que Washington soit occupé par les passes d'Aran.
Bien sûr.
Trump soit prisonnier.
On peut légitimement dire que les Américains n'ont pas tout à fait gagné cette guerre par rapport à leurs objectifs
par
initiaux.
Par rapport au but de guerre. Alors, reste à savoir ce qui va advenir, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler dans cette émission, ce qui va advenir de la question du nucléaire. Parce que le nucléaire, c'est quand même là où Trump voulait appuyer du doigt fermement pour essayer d'avoir... Alors, la fin du programme, c'est une chose, et le problème, c'est qu'on ne peut pas se satisfaire des déclarations des Iraniens, parce que ça fait 50 ans qu'ils mentent.
Oui, voilà.
Mais
c'est
la question, c'était l'uranium enrichi...
En tout cas, il les a retardés. Ça, c'est évident qu'il les a retardés.
Évidemment, parce qu'avec des bombes bien placées...
Oui. Malheureusement, l'idée au départ, c'était non pas de les retarder, mais de les empêcher d'en avoir une définitivement. Et ça, on peut craindre que ça ne soit pas le cas. Retarder, certainement. Donc, il n'a pas perdu, mais il n'a pas gagné non plus totalement.
Pas forcément. Attends, en tout cas, on verra. Il n'a pas atteint le nucléaire.
On verra, bien sûr.
Il est quand même à redouter que, comme le disait un journaliste du Figaro, pour une fois pas trop pour pro-iranien et anti-américain, que cet accord serait en fait à moitié satisfaisant, à moitié boiteux, et ne fasse que préparer la prochaine guerre.
Exactement,
avec l'Iran, qui serait dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans,
avec
dans
ces gens-là, de toute façon, comme vous venez de le dire, c'est des tricheurs et des menteurs, en plus d'être des criminels, et donc ils recommenceront. Hein, donc, et c'est pour ça que les Israéliens étaient en faveur d'une élimination totale du régime.
Et radical.
Parce que eux, ils sont sur place, eux c'est les vrais voisins, hein, ils sont pas très loin, ils savent ce que c'est.
Et leur enjeu, c'est la pérennité d'Israël.
Malheureusement, les Américains leur ont retenu.
Ils sont loin et font du business.
Ils ont retenu les Israéliens, ils ne nous ont pas assez soutenus, et bon, ils vont recommencer dans 5 ans. Rendez-vous dans 5 ans.
Rendez-vous dans 5 ans, exactement. Allez, on arrive à la fin de cette émission.
Rendez-vous la semaine prochaine, lundi prochain, 17h.
Bonne soirée.